Radio Kapi.
Réaction au discours du chef de l'État à la 76e Assemblée générale de l'ONU à New York. Les avis sont partagés. Vous entendrez dans ce journal ceux de l'UDPS et du PPRD. Des ministres provinciaux et agents du gouvernorat en grève depuis 4 jours. Ça se passe à Cabinda, dans la province de Lomami. Ils réclament le paiement de 25 mois de la prime locale et 18 mois d'arriéré de salaire. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat est notre invité. Pius Mwabilou lance une opération de délogement des locataires insolvables, des maisons appartenant à l'État et de résiliation des conventions de partenariat privé. Bonjour à tous. Discours du président de la RDC, président en exercice de l'Union africaine à la 76e Assemblée générale de l'ONU à New York mardi dernier. Les réactions continuent à être enregistrées. Du côté du parti présidentiel, l'UDPS, l'on estime que ces discours de qualité marquent le retour de la RDC sur l'échiquier international. Cette affirmation est du professeur Jean-Claude Chilumbai, député provincial et cadre de l'UDPS au cours de l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mercredi animée par Kéline Kouté. Il estime que sur le plan national, Félix Tshisekedi s'est présenté comme un chef qui rassure. On écoute le professeur Jean-Claude Chilumbai.
On a petit à petit des évidences que c'est un Congo de retour, un pays qui était effacé sur la scène internationale, qui reprend sa place de géant, sa place de commandeur et de représentant de l'Afrique. C'est précisément dans ce cadre que le chef de l'État, non seulement comme président de l'Union africaine, mais aussi comme président du pays phare de cette Afrique renaissante qu'il veut, s'est exprimé sur des grands enjeux internationaux et africains. Aussi, c'est au plan interne. Là, nous avons assisté à un chef qui rassure, un chef qui désormais parle avec conviction et espoir de son pays, qui pose un diagnostic honnête et serein sur l'avenir de celui-ci. Et dorénavant, nous sommes en droit de penser que si nous nous serrons les coudes, le pays est plus que jamais tourné vers l'avenir. Le président de la République parle cette fois-là comme un chef qui oriente l'avenir du pays, qui lui donne une nouvelle connotation. Laquelle connotation va devoir permettre à la République de se doter des moyens de renflouer ses caisses.
Le discours du président de la République a déçu plusieurs Congolais. Cette réaction est celle de Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo, FCC, au cours de l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mercredi. Il estime que les matières essentielles sur lesquelles Félix Tshisekedi était attendu par plusieurs Congolais n'ont pas été abordées et même les résultats de l'état de siège qu'il a présenté ne reflètent pas la réalité, a-t-il ajouté. On écoute Fernand Kambere.
Un discours qui a déçu énormément de Congolais. Parce que le terrain sur lequel on l'attendait, c'était par exemple sur le plan sécuritaire, l'état de siège, qui est toujours une décision grave que prend le président de la République pour une situation déterminée, des circonstances qui peuvent amener le pays à un chaos, mais que lorsque lui parle, il ne connaît pas les jours. Et cela, c'est depuis 5 mois maintenant déjà qu'il y a état de siège, que lui dit cet état de siège ne pourra être levé que le jour où les circonstances qui ont présidé à sa proclamation disparaîtront. Lorsque ces circonstances-là, on ne sait pas nous les décrire pour dire qu'on a su les réduire à quel pourcentage, par exemple. Donc un tel discours, je suis sûr, et les gens nous appellent de partout, c'est un discours qui a déçu. Même ce qu'on a présenté dans ce discours par notre président de la République comme résultat de cet état de siège, ça, je crois que c'est quand même une déception.
Tous ces extraits ont été proposés par Alain Young. Direction province du Tanganyika, où l'activisme de la milice Toa reste encore présent dans les territoires en proie à l'insécurité. Les derniers cas déplorés touchent la partie nord à la fois de la Lukuga dans les territoires de Nyunzu et des Mapanda dans les territoires territoire de Kalemie. Pour tous les deux cas, les activistes de droits de l'homme appellent à l'implication des services de sécurité pour mettre un terme aux souffrances de la population dans la région. Le point de la situation avec François-Xavier Mibé.
Le premier cas qui illustre ce tableau sombre de la situation sécuritaire, c'est l'enlèvement la nuit de mardi à mercredi de deux femmes du village de Mukongwa à 500 mètres de Mapanda dans les secteurs de Bendera. Ce que témoigne un membre de la société civile locale. Nous savons qu'il y a deux femmes enlevées dans les villages de Mukongwa. C'est la deuxième fois que nous enregistrons des cas semblables. L'année passée, une autre femme a été enlevée de Mukongwa et puis conduite dans la forêt. La victime rendue comme esclave sexuelle a été libérée quelques jours après. Enfin, les habitants du village de Saba, près de Kisengo, ont passé des heures entières de la nuit à cause d'une incursion de la Milistoa. Nous sommes en territoire des Nyunzu. Les assaillants se sont livrés au pillage dans les maisons des victimes. Témoignage.
Quand ils sont arrivés là, ils ont pillé systématiquement 58 kilos de coton, de chèvres, de poulets et autres biens de valeur. Comme les militaires sont loin de ce village, ils sont intervenus avec un grand retard.
Pour tous les deux cas, les victimes parlent de miliciens Twa qui répondent aux commandes du leader Twa Mundus, restés actifs dans la région. Kalemi, François-Xavier Mibé, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, des membres de l'association dynamique des femmes pour la bonne gouvernance de Butembo ont rencontré hier mercredi les différents regroupements qui militent pour le droit de la femme dans la ville de Beni. Objectif, réfléchir sur l'état sécuritaire qui prévaut actuellement dans la région et proposer des solutions pour l'implication des femmes au retour de la sécurité. Écoutez les principales recommandations formulées par les participantes élues par Espérance Kasi de l'ONG One Girl, One Leader au micro de Guylaine Kassassia.
Les participantes à ces travaux ont formulé les pistes de solutions suivantes. Mettre en place des stratégies pratiques de lutte contre les filtrations au sein des services de sécurité ainsi qu'au sein de la population dont la relève de tous les officiers aux origines douteuses présents dans la région et qui ont duré. Instaurer une collaboration nécessaire entre les services de sécurité et la population. Cela commence par la mise en application de différentes suggestions longtemps remontée par les structures de la société civile. À cet effet, les femmes appellent le président de la République à placer une attention particulière au ravitaillement de vivres aux militaires engagés sur les lignes de front. Déclencher les enquêtes sur les différents opérateurs politiques cités dans l'entretien de l'insécurité en province du Nord Kivu et les déférer devant la justice. Impliquer les cellules d'animation communautaire dans la remontée des informations sécuritaire.
À Cabinda, quatrième jour ce jeudi de la grève des ministres provinciaux et des agents du gouvernorat de la province de l'Omami, ces hauts cadres de l'administration publique réclament la paye de 25 mois de la prime locale ainsi que 18 mois d'arriéré de salaire. Lundi dernier, les grévistes étaient dans la rue pour exprimer leur mécontentement. Le maire de Cabinda dénonce cette attitude des grévistes car selon lui, la situation est générale. Des explications avec Esther Dalafina.
À ce troisième jour, l'hôtel du gouvernement provincial de l'Omami ainsi que quelques bureaux du gouvernorat de province ressemblent à un désert. Tous les cabinets ministériels, les bureaux des conseillers ainsi que ceux des agents administratifs du gouvernorat de province sont restés fermés. C'est la grève. Les ministres provinciaux, les conseillers ainsi que tous les agents du gouvernorat de l'Omami sont absents de leurs bureaux. Les grévistes réclament 25 mois de prime locale et 18 mois de salaire. Malgré la promesse faite par le gouverneur de province ad intérim de transmettre leurs revendications à qui des droits, les grévistes tiennent au respect de leur mot d'ordre. Cependant, le maire de la ville de Cabinda dénonce cette attitude des grévistes. Selon Joseph Kazadingoy, un ministre, c'est la sommité. Jamais cet homme d'État ne peut gréver.
Quand on est responsable, on doit s'assumer. La population attend de nous tout sauf rien. C'est très grave. C'est une affaire qui est presque générale. Ce n'est pas seulement une affaire de la Lomami. La politique, c'est comme dans l'armée. Il n'y a pas de syndicats. On ne grève pas.
Signalons que depuis le début de ce mouvement de grève, quelques observateurs disent ne pas comprendre les motifs de la suspension pendant 18 mois par le gouvernement central de la rétrocession envoyée à la province de Lomami. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Si dans la province de l'Omami, les ministres provinciaux et les agents du gouvernorat sont impayés depuis plusieurs mois, au Lualaba, dans la province éducationnelle Lualaba 2, les enseignants sont payés avec des billets surnommés double face. Cette information est livrée à Radio Okapi par le président du syndicat des enseignants du Congo, Sieko Akapanga. Dominique Chifong précise qu'il s'agit d'un morceau de billet de 20 000 francs congolais collé à un morceau de billet de 5 000 francs. Il ajoute que malgré les plaintes des enseignants auprès de la banque qui les paye, cette situation ne change pas. Conséquence, selon lui, les enseignants de la province éducationnelle Lualaba 2 menacent de ne pas reprendre les cours à la prochaine rentrée si cette situation, entre autres, n'est pas réglée. On écoute Dominique Chifong, joint par Alain Irung.
Il n'y a pas longtemps qu'on a payé ces enseignants. Et le bien qu'on a payé ici, le bien à double face, c'est-à-dire un bien de 20 000 qui a une partie de 20 000 et une partie de 5 000 francs. Ce bien-là sera appelé comment? C'est déplorable ici. Les enseignants circulent avec ce bien ici, ils ne voient où amener ce bien-là. Ce n'est pas bien. Tous les enseignants se demandent, leur argent qu'on paye ici, c'est l'argent qu'ils jettent dans les poubelles. Ils peuvent rentrer avec quoi? Est-ce qu'ils vont acheter les fournitures scolaires pour leurs enfants? Je vous dis vrai que la rentrée scolaire ici dans la province éducationnelle et en particulier à Kapanga n'aura pas lieu à moins que qu'on paye tout le monde, tous les enseignants, les NU et les NP.
Quand ils vous payent avec ces billets à double face, d'un côté 20 000, de l'autre 5 000, comment ils justifient ça quand vous leur posez la question?
Quand nous leur demandons de remettre cet argent, on leur dit non, si vous pouvez échanger cet argent. Maintenant, ils sont orgueilleux, ils font gros dos, nous savons quoi faire.
Dans la province de la Tchopo, l'ONG Sauti ya Lubunga, une structure de la société civile Force Vive, plaide pour un dialogue entre l'ordre des infirmiers et le gouvernement en vue d'une éventuelle reprise des activités des infirmiers et dans les formations médicales publiques. Ces plaidoyers font suite au constat selon lequel quasiment tous les centres de santé officiels de la commune urbano-rurale de Lubunga sont fermés suite à la grève des infirmiers. Les conséquences sont inéluctables et le pire est à craindre. Les explications avec Jacques Moukonkole.
Sauti ya Lubunga déclare qu'hormis l'hôpital général qui fonctionne avec le médecin chef des zones de santé, le médecin directeur et le médecin chef de staff, tous les centres de santé publics sont fermés suite à la grève des infirmiers. Il s'agit notamment des centres de santé Losoko, Bambolé, Ouzima, Saint-André, Pêcheur d'Homme, Osio PK16 et PK21 route Opala. Les malades s'orientent vers les centres de santé privés où les soins de qualité font défaut. Conséquence, pas de consultation prénatale, ni préscolaire, ni encore moins de vaccination d'enfants. Des cas de décès maternels sont également enregistrés. Héritier Isomela encourage le gouvernement à nouer le dialogue avec les infirmiers afin de sauver les vies humaines en péril.
Nous voulons quand même demander au gouvernement de la République d'être quand même en contact avec les syndicalistes des infirmiers pour qu'ils puissent trouver la solution afin d'aider le malade et nos mamans qui souffrent dans cette entité. Vraiment, il n'y a pas moyen. Nous demandons également au gouvernement provincial de faire quelque chose.
Aucun responsable sanitaire public n'a encore réagi pour le moment. Néanmoins, un membre du comité provincial de l'ordre des médecins affirme qu'il avait déjà été dit aux infirmiers que leurs revendications seraient prises en compte dans le budget 2022. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Justice, le procès du double assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana a repris en appel hier mercredi devant la cour militaire à la prison militaire de Ndolo, condamné par contumace, c'est-à-dire en leur absence, à la peine de mort lors du second degré devant la même cour. Les policiers fugitifs Christian Goy Kenga Kenga et Jacques Mugabo ont été identifiés à cette première audience publique d'introduction. Et comme ils n'ont pas été assistés de leurs avocats, la cour a renvoyé l'affaire au 6 octobre afin de pourvoir à leur conseil par le truchement de l'Ordre national des avocats. Reportage de Jeff Ngoy.
Tout commence par un tumulte provoqué par le commissaire supérieur Kenga Kenga. Licencié d'un institut supérieur de Lubumbashi, il choisit de s'exprimer en swahili. Il refuse de se tenir devant la barre et de répondre aux questions du juge. Il accuse la justice militaire de l'avoir arrêté comme un rebelle et de l'avoir privé de tout contrôle avec sa famille. Le juge rappelle à l'incriminé les dispositions de la loi en cas d'outrage à magistrat, notamment de le renvoyer en prison et de le juger et condamner comme rebelle. Il reste imperturbable. Avocat des parties civiles, famille Chebeya Bazana, la voix des sans-voix et le Renadoc, maître Richard Bondo explique la procédure en cours.
Ici, c'est la procédure en disjonction des poursuites parce que au degré d'appel, devant la haute cour militaire, il a été décidé la disjonction des poursuites vis-à-vis s'agit des fugitifs. Il y avait 3 fugitifs. Les 2 qui comparaissent aujourd'hui, en l'occurrence Ngoy Kenga Kenga Christian et Jacques Mugabo, plus Mouilambo et Paul.
Prévenus d'assassinat, enlèvement, terrorisme, désertion, détention illégale d'armes, les 2 anciens fugitifs retrouvés ont interjeté appel le 31 mai dernier contre l'arrêt rendu en leur absence au mois de septembre 2015 au motif du mal jugé.
Actualité internationale.
L'Algérie a décidé hier mercredi la fermeture immédiate de son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains, ainsi qu'aux appareils immatriculés au Maroc, a annoncé la présidence. Le 24 août, l'Algérie a rompu les relations diplomatiques avec le Maroc en l'accusant d'actions hostiles après 2 mois de tensions exacerbées entre ces 2 pays rivaux du Maghreb. Devant l'Assemblée générale de l'ONU, Joe Biden félicite la jeunesse zambienne. Lors de son discours à l'ONU, le président américain a loué les valeurs démocratiques, meilleur rempart selon lui contre l'autoritarisme. Il a ensuite cité plusieurs exemples, notamment la Zambie, pays d'Afrique australe, qui a vu récemment une nouvelle alternance politique avec l'élection de l'opposant Hakainde Hichilema, une victoire qui, pour Biden, n'aurait pas eu lieu sans la jeunesse zambienne, à qui le président américain a réservé une mention spéciale.
L'invité.
Le ministère de l'Urbanisme et Habitat s'engage dans une vaste opération de délogement des locataires indélicats et des résiliations de conventions de partenariat privé. C'est en fait le résultat à mi-parcours de la commission d'identification immobilière mise en place depuis juillet dernier. Pour en parler, nous recevons le ministre d'État, Pius Mwabilou. Il s'entretient avec Jacques Moukonkolé.
Bonjour, monsieur le ministre d'État.
Bonjour.
On estime à 90% le taux d'expoliation des biens et patrimoine de l'État. Comment pensez-vous les récupérer ou mettre un terme à cette situation?
Bon, c'est une réalité. L'État est dépouillé de toutes ses maisons, villas, lieux publics disséminés à travers le pays. Il faut savoir aussi que depuis la fin de la colonisation à ce jour, nous sommes pratiquement passés de plus de 15 000 unités à moins de 1 000 aujourd'hui. De Lubumbashi, Bukavu, en passant par Goma, Kananga, Matadi, Kinshasa, Mbandaka, c'est un désastre. Cet effritement est l'œuvre, comme vous le connaissez, de certains citoyens, et bien plus grave encore, de quelques autorités, en complicité avec des agents de l'administration et du pouvoir judiciaire. Et devant la justice, l'État a perdu beaucoup de procès, souvent par défaut, par manque de titres de propriété. Cette faiblesse a été et est en train d'être corrigée. C'est ce que je peux vous dire à cet instant, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, et le gouvernement de la République, avec à sa tête le Premier ministre, qui ont lancé une vaste opération de titularisation pour couvrir les biens immobiliers du domaine privé de l'État, des certificats d'enregistrement. Donc ce qui leur permet d'échapper à la spoliation.
Ça, c'est donc le fruit du travail de la commission que vous avez mise en place.
Voilà. Mais l'ingéniosité, si j'ose dire, du gouvernement Samalou Kondé ne s'est pas arrêtée là.
Alors, on peut déjà se faire un petit bilan, un bilan à mi-parcours de ce travail.
Cette opération, d'abord, bénéficie d'une présomption irréfutable qui nous permet d'être optimistes. Je vais vous donner un petit exemple. À la Gombe, par exemple, près de 90% des maisons qui jadis relevaient de la colonie belge appartiennent bel et bien à l'État. Je profite de l'occasion que vous me donnez ici pour lancer un avertissement clair à tous les spoliateurs. L'État va tout récupérer, tôt ou tard.
Si je vous comprends très bien, c'est que vous avez une banque de données de tous ces locataires et que vous les suivez pas à pas.
C'est justement pour ça que nous sommes en train de travailler sur fond des listes que nous avons. Il va de soi que les acquisitions irrégulières seront examinées au cas par cas. Et rappelez-vous, la récupération des biens immobiliers de l'État spoliés ou en voie d'expoliation était une promesse des campagnes du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilov. Alors, nous sommes déterminés à la mettre en application sur l'ensemble du territoire. Pas un seul coin de ce pays ne sera épargné tant que Pius Mwabilou sera ministre de l'Urbanisme et Habitat. Les menaces, que les gens cessent de m'appeler avec des numéros masqués, m'insulter, je ne vais pas reculer.
Vous avez les épaules pour cela, alors?
Ah oui, j'ai des épaules pour cela. Je suis venu ici pour servir. J'applique le programme du président de la République.
Donc, vous lancez là une vaste opération de récupération ou alors de délogement des insolvables, des spoliateurs. Comment vous allez procéder?
Nous prenons et nous titrisons. C'est ça la spécialité, la spécificité de l'action que nous sommes en train train de mener. Et je lance aussi un appel aux bénéficiaires de contrats de partenariat public-privé. Il a été constaté également que la majeure partie des promoteurs immobiliers qui ont signé des accords avec l'État n'ont pas exécuté leurs obligations contractuelles.
Et qu'est-ce qu'ils font pendant ces temps?
Pire, certains d'entre eux ont cherché même à s'accaparer frauduleusement des espaces publics.
Par ailleurs, vous appelez à la participation de la population dans cette traque. Dire qu'il existerait des patrimoines qui échappent à l'État, qui échappent à votre ministère.
Oui, et c'est formidable. Vous savez que certains immeubles, certaines villas, certains espaces, c'est la population qui vient nous donner des informations. Et c'est vrai, c'est que quelque chose a changé dans ce pays. Et je suis très très content, je remercie nos compatriotes qui viennent chaque jour nous signaler certains biens spoliés, cachés. Et il y a des gens ici qui prennent des espaces. Dans certains espaces, on a déjà construit. Il met un cadenas. Vous avez l'impression que quelqu'un habite là-bas et il a disparu. Il attend 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Si on ne bouge pas, ils viennent raser les maisons. Ça, ce n'est pas seulement à Kinshasa. Hein. Il y a des villes où le chef de division vous appelle à 1h du matin pour vous dire « Non, il y a les bulldozers qui sont en train de raser une maison de l'État sur telle avenue. » Et d'ailleurs, je vous promets tout de suite que bientôt, je vais installer le numéro vert, carrément, ici au ministère.
Dernière question, monsieur le ministre d'État. L'opération a commencé depuis le 1er juillet. Il y a un timing arrêté pour commencer à sévir et enfin finir ce travail.
Je sais que ce n'est pas facile, mais je peux vous dire que nous avons des chronogrammes, mais il faut que les gens soient disciplinés.
Monsieur le ministre d'État, Pissou Mabilou, je vous remercie.
Merci.
C'est par ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.